Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et à l'ESPE et mes travaux concourent à une école inclusive. Donc, je vais essayer pendant une heure de vous entraîner vers du micro, c'est-à-dire vers les situations de travail telles qu'elles peuvent exister en classe, dans un établissement. Maintenant, c'est toujours beaucoup plus facile d'aller regarder et d'analyser des situations de travail lorsqu'on est dans un fauteuil ou lorsqu'on est chercheur. Donc, je n'incrimine pas du tout. Ce que vous allez voir, ce sont des situations professionnelles, et c'est des situations professionnelles qui peuvent, à un certain grain, poser problème. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème d'institution. Donc ça, je tiens à le dire en tout début, parce que sinon, on pourrait marquer au fer rouge, quelque part, les actions de certains professionnels. Donc, en tant que chercheur, je vais vous présenter comme le cadre de mes travaux, les contextes aussi de mon travail pour une école inclusive. Et puis, je vais vous entraîner vers deux études de cas. Une étude de cas qui va se situer dans une classe de CE1, et où là, il y a un dispositif de l'éducation nationale qui s'appelle « Plus de maîtres que de classes », qui n'est pas un dispositif spécialisé, mais qui est un dispositif non discriminant, à savoir pour la scolarisation et les progrès de tous les élèves. Et puis je vous parlerai ensuite d'une situation de travail où il s'agit pour une auxiliaire de vie scolaire ou une AESH d'aider un élève et d'accompagner un élève en situation de handicap. Et puis pour conclure, j'essaierai de localiser quelles seraient en fait les conditions d'un travail partagé dans une situation de travail. Alors, du point de vue de mes enjeux scientifiques, j'ai une démarche qui est très qualitative, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre en situation plutôt scolaire ce qui fait que l'école agit sur les apprentissages des élèves et qu'elle crée des écarts. C'est-à-dire que on a beaucoup en France travaillé et envisagé, en fait, pour aider l'ensemble des élèves, on a envisagé plutôt des dispositifs d'aide. Et j'essaie de comprendre ce que font les dispositifs d'aide aux apprentissages des élèves. Et bien entendu, je vais regarder un grain très fin, les pratiques des enseignants ou des auxiliaires de vie scolaire ou d'autres acteurs qui agissent pour aider en milieu scolaire les élèves en difficulté. Aider en milieu scolaire, ça n'est pas aider à la maison, ça n'est pas aider au centre aéré ou dans une situation sportive, par exemple. Aider à l'école est tout à fait spécifique. Et du coup, vous voyez que là, pour l'instant, je n'ai pas parlé de catégorie d'élèves, plus particulièrement, et parce que c'est ici que se positionne l'école inclusive dans ses aspects de non-discrimination. En fait, l'école est à considérer comme un milieu de socialisation, certes, un milieu collectif, mais un milieu de socialisation qui est très spécifique puisque c'est une socialisation par les apprentissages. S'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'école. Donc, on ne parle pas d'accueil d'élèves spécifiques, mais bien de scolarisation. Et c'est ce que disait M. Bourse ce matin. Et donc, les situations d'apprentissage, elles sont là pour tous les élèves. Du coup, si je reconsidère les trois mots-clés de la loi de 2005, l'école inclusive, elle est non discriminante, donc c'est une école pour tous. Mais pour qu'il y ait une école pour tous, il est absolument nécessaire qu'il y ait une accessibilité, et pas uniquement une accessibilité des locaux, mais bien une accessibilité des situations d'enseignement-apprentissage avec diverses compensations. Donc ça, c'est mon entrée théorique, puisque en fait je suis dans un champ de la recherche que j'appelle socio-didactique. Socio parce que j'entre par les dispositifs. Alors, ce que dit Anne Barrère, qui est sociologue, sur les dispositifs, c'est que tout dispositif vise à faire faire les acteurs dans des chemins qu'il a tracés d'avance, en contraignant administrativement et pédagogiquement l'action. Donc vous voyez bien que les dispositifs, ils ont un effet sur les pratiques. Et que, eh bien, Marcel Calvez dit que les dispositifs fournissent aux individus des principes et des justifications pour organiser leurs relations sociales. Donc c'est toujours très ambivalent. Le dispositif va imposer une certaine manière de concevoir l'école, mais en même temps les acteurs vont aussi pouvoir se réfugier derrière les dispositifs dans la mesure où ils vont pouvoir justifier par là l'organisation de leurs relations sociales. Et didactique, donc, parce que le cœur de mes recherches, c'est l'analyse des situations didactiques, c'est-à-dire des situations où il s'agit d'enseigner et d'apprendre. Du coup, si je veux très rapidement essayer de mettre, de raconter un peu le cadre théorique, c'est que quand on parle de situations d'enseignement et d'apprentissage, en fait, quand on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, dans le milieu purement scolaire ou dans un cadre d'apprentissage, eh bien, il y a toujours, avec mon jargon, du contrat et du milieu. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? C'est qu'on a des choses qui sont déjà là. S'il n'y a pas de déjà là, l'apprentissage va être compliqué. Si je vous mets devant un texte écrit en chinois, sauf si vous avez des connaissances de chinois, je pourrais vous y laisser des heures. Vous n'avez pas de connaissances déjà là, d'habitude d'action vis-à-vis de la langue chinoise. Donc, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Donc, il faut du contrat. Et il faut du milieu, c'est-à-dire quelque chose à connaître, mais que quelque chose, cette dimension antagoniste, parce qu'on ne le connaît pas, il va falloir qu'elle soit accessible. Je vous laisse tout seul devant la feuille de chinois, je peux vous y retrouver 3 jours après, vous serez dans le même état. Maintenant, une situation d'apprentissage, pour qu'il puisse y avoir des apprentissages, il faut qu'elle ne soit pas trop éloignée de ce que vous savez déjà. Mais une situation d'enseignement et d'apprentissage, elle est très particulière parce qu'elle s'établit dans une situation de communication, et comme je vous le disais tout à l'heure, une communication qui est fondée sur des savoirs. Donc du coup, on a une relation, une sorte de triangulation entre le professeur, des élèves et autour du savoir. Maintenant, eh bien, cette relation, elle est conjointe, c'est-à-dire qu'elle se fait avec ces 3 pôles obligatoirement, elle est coopérative, c'est-à-dire qu'un professeur, ça n'existe pas sans des élèves, et des élèves, ça n'existe pas sans professeur, et qu'elle est dissymétrique parce que c'est un endroit très particulier de la communication. C'est-à-dire, c'est le seul endroit où quelqu'un qui sait, le professeur, va poser des questions à quelqu'un qui ne sait pas, et que ce quelqu'un qui ne sait pas va répondre à quelqu'un qui sait. C'est-à-dire que si vous, vous posez une question à votre voisin et que vous lui dites « Ah non, 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 c'est pas du tout ça, moi je connais la réponse », c'est une rupture de communication dans la vie quotidienne. L'école, en revanche, est pourtant basée sur celui qui pose des questions en détient les réponses. Moi, dans mon travail, j'ai un système théorique qui est là, pour essayer d'analyser ces situations, mais ça, je vous en fais grâce. Donc, sur les contextes de mes études, je vous disais tout à l'heure que la France a tendance à proposer, dès qu'il s'agit d'élèves qui présentent des difficultés, pour des raisons diverses, la France a tendance à proposer des dispositifs. Et que ces dispositifs, ils sont plus souvent à l'extérieur de la classe, et ils interviennent la plupart du temps en remédiation, c'est-à-dire une fois que les difficultés sont déjà installées. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler à l'école élémentaire des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, qui les enseignants des classes ordinaires vont devoir faire une demande d'aide à des enseignants spécialisés lorsqu'ils ont repéré des élèves qui présentent des difficultés pérennes, c'est-à-dire des difficultés qui durent. Il y a d'autres types de dispositifs qui n'amènent pas à un appel à des enseignants spécialisés, les aides personnalisées qui ont existé de 2008 à 2013, qui ont été remplacées par des activités pédagogiques complémentaires, les APC dans le premier degré, et on trouve dans le second degré des accompagnements personnalisés. Ces aides-là, elles sont mises en place en dehors du temps collectif. C'est-à-dire que dès que l'élève a une difficulté, on va lui proposer un dispositif hors du temps collectif. Donc finalement, pour les élèves les plus en difficulté, il y aura du temps supplémentaire. Et si on regarde les unités localisées pour l'inclusion scolaire, on s'aperçoit que beaucoup de personnes vont dire les classes ULIS. Or, l'ULIS n'est pas une classe, elle est un dispositif, elle est une unité localisée. C'est-à-dire qu'elle est une ouverture et un soutien à la scolarisation, normalement, dans les dispositifs de droit commun que sont les classes. Donc, vous voyez que ce soit les réseaux d'aide, les aides personnalisées ou les ULIS, il peut y avoir, en tout cas, cette architecture de choix, elle a des incidences sur les pratiques des professeurs. Et si elle a des incidences sur les pratiques des professeurs, c'est qu'elle aurait aussi des incidences sur l'expérience des élèves avec les savoirs. Et ça, je vais y revenir parce que c'est le cœur de mon travail. En effet, les dispositifs d'aide ont des effets. Et par exemple, le fait de les considérer la plupart du temps comme extérieurs à la classe ordinaire, eh bien, ça va introduire un certain nombre de faits. Par exemple, aider les élèves... pour les enseignants, ça va être quasi systématiquement la constitution de petits groupes d'élèves. Et plus le groupe sera petit, plus les enseignants vont penser que l'aide va être efficace. Parfois, on est même dans de l'individualisation, c'est-à-dire dans des formes de préceptorat où il y a un adulte et un enfant. Et c'est par là que l'on pense que cette individualisation va être celle qui va amener le plus de résultats auprès d'un élève. On s'aperçoit, et ça c'est mon jargon, ce sont les travaux que je mène avec Corinne Marlot ou des travaux que mène Jeannette Tambonne de Marseille, c'est-à-dire que si on constitue un petit groupe à l'extérieur de la classe, on a le temps de l'apprentissage de la classe et on a le temps de l'apprentissage des petits groupes. Et donc, c'est ce qu'on appelle une déconnexion des temps didactiques ou une déconnexion des temps d'apprentissage, puisqu'on sépare les espaces d'apprentissage. Ces espaces d'apprentissage, lorsqu'ils sont séparés, eh bien, ils vont produire des effets. On va essayer de les voir tout à l'heure. Le fait de poser une demande d'aide à un autre enseignant, à une autre personne, à un autre professionnel, eh bien, ça peut faire en sorte de déléguer la difficulté à un autre enseignant, spécialisé ou à un autre professionnel. Et que cette délégation, parfois, peut mener à une certaine relégation de l'élève. Donc là, c'est ce matin, on dit, bah oui, il faut coopérer. Il faut coopérer à certaines conditions, parce que ces coopérations, quand elles mènent à des désolidarisations d'un ou plusieurs élèves, très souvent à l'extérieur de la classe, eh bien, ça peut être aussi engager l'élève dans une forme de relégation. Et il y a des travaux qui nous disent aussi, des travaux de recherche, que quand il y a des lieux d'enseignement différents, il peut y avoir une perte de contenu d'apprentissage. Alors, je dis bien que ces pratiques-là, elles ne correspondent pas à des dysfonctionnements entre eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas constituer des petits groupes ou qu'il ne faut pas faire justement déconnecter parfois les temps didactiques, qu'il ne faut pas déléguer des difficultés ou des obstacles à d'autres professionnels. Ce n'est pas ça du tout. Mais l'exposition très fréquente, répétée d'élèves dans ces formes d'aide, eh bien, à terme, peut, ce que dit Bourdieu, les exclure de l'intérieur. C'est la fréquence, bien entendu. C'est-à-dire que, en tout cas, des travaux de sociologie, mais aussi de didactique, ont montré que de penser de créer des filières, c'est-à-dire de mettre en place des classes de niveau, eh bien, ces classes de niveau, bien entendu, les acteurs les font parce qu'ils pensent que, surtout pour les élèves les plus en difficulté, les mettre ensemble va pouvoir les amener vers une réponse plus adaptée à leurs besoins. Maintenant, les travaux de recherche montrent que la création de filières et de classes de niveau bénéficie effectivement à 5% d'élèves. C'est-à-dire qu'on en laisse 95% de côté. Et ces 5% d'élèves sont les élèves les plus forts. Les classes de niveau bénéficient aux 5% des élèves les plus forts. D'accord ? Donc, sachant ça, ça reconditionne les manières de réfléchir à l'aide. Donc, je vais vous proposer quelques exemples emblématiques pour mettre au jour les incidences, en fait, de certaines pratiques. Je vous ai dit que, finalement, dans ce que j'essaie de comprendre, dans cet apprentissage, cette approche didactique, j'essaie de voir qu'est-ce que produisent les phénomènes d'externalisation et d'internalisation de l'aide. Du coup, quand je parle d'externalisation de l'aide, j'aime assez parler aussi avec des schémas, c'est-à-dire qu'on aurait dans le système scolaire un système didactique qui est central, un système d'apprentissage qui est central, qui est la classe de référence de l'enfant, de l'adolescent. Et puis, peuvent se mettre en place cette flèche mauve, c'est-à-dire des systèmes auxiliaires, des groupes d'aide, les réseaux, les ULIS, etc. Mais vous voyez bien que les deux institutions sont à ce moment-là désolidarisées. Il y a deux espaces de travail, et s'il n'y a pas une anticipation sur les manières de reconnecter ces deux systèmes de travail, eh bien, ils risquent de ne jamais se reconnecter. C'est-à-dire qu'on pense que les élèves vont par eux-mêmes pouvoir transférer les savoirs qu'ils ont appris dans le système MOVE dans le système de la classe. Or, ce qui a été montré aussi d'un point de vue didactique, c'est que plus les élèves présentent des difficultés d'apprentissage pour des raisons diverses, moins ils sont en mesure de reconnecter ce qui se passe dans un système auxiliaire dans le système de la classe. Donc, ce modèle d'externalisation a vraiment des risques pour les populations les plus fragiles, c'est-à-dire celle de déléguer la difficulté à un autre et de reléguer l'élève. Là, on est dans un modèle d'externalisation de l'aide. Et ce modèle est, je vous l'ai dit, assez fréquent. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que produit une réinternalisation de l'aide au sein de la situation collective qu'est la classe, puisque sans reconnexion avec ce qui est fait en classe, l'externalisation mène les élèves les plus fragiles, le plus souvent, vers une relégation. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut renforcer une équipe d'école ou une équipe d'établissement d'un enseignant supplémentaire ou d'un personnel supplémentaire, ça peut être l'AESH, mais ça pourrait être bien d'autres corps de métier. Alors, si on renforce cette équipe d'école, est-ce que c'est une opportunité pour réinternaliser l'aide? Ou alors, est-ce que c'est au contraire un renforcement de la tendance actuelle à l'individualisation? C'est-à-dire aujourd'hui, la proposition, c'est un adossement du médico-social à l'école, mais c'est ça d'à l'école, mais on pourrait très bien imaginer que ça pourrait consolider l'externalisation de l'aide, à savoir que les élèves seraient certains élèves seraient d'autant plus souvent prélevés de la classe. Et donc là, vous voyez, c'est un système qui pourrait être contre-productif, puisque deux fois plus d'intervenants, ça pourrait être deux fois plus d'occasions d'aider individuellement les élèves en difficulté. Du coup, quelles seraient les modélisations potentielles pour une école inclusive? Et là, j'ai un collègue dans la salle qui interviendra demain, mais Jean-Michel Pérez, on a mis en place un symposium très récemment pour la Journée nationale des SP, des écoles supérieures de professorat et d'éducation, parce que qui avait pour thématique numérique et école inclusive. Et en fait, l'école inclusive, on parle souvent d'inclusion. Et aujourd'hui, dans les écoles, on entend souvent cette expression, cet élève, il va en inclusion. Si on utilise la recaptation de l'élève va en inclusion, c'est pas de l'inclusion, puisque c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, donc il n'est pas inclus. Et on est dans un modèle qui est au mieux un modèle intégratif. Donc, l'élève, hein, dans une école inclusive, l'élève ne va pas en inclusion, il est donc inclus. Du coup, eh bien, il va falloir à minima des situations imbriquées. C'est-à-dire que l'apprentissage, eh bien, dans un modèle inclusif, un apprentissage au plus près du système didactique central qu'est la classe de référence, mais que pour certains élèves, à certains moments, il va y avoir besoin d'un système auxiliaire, mais à la condition qu'il soit connecté au système principal central qu'est la classe. Et là, il y a un mouvement d'imbrication et de coopération entre les personnels. Donc, ça veut dire que les apprentissages, ce qu'il y a à apprendre, c'est bien ciblé par le système central. De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire avancer cet élève dans les apprentissages de la classe? Et que le travail des deux institutions, le central et le temporaire, auxiliaire, concourt à ces mêmes objets d'apprentissage. Ce qui permet, ce n'est plus à l'élève de faire le lien entre ce qui se passe à l'extérieur de la classe et à l'intérieur de la classe, mais c'est bien les systèmes qui sont pensés dans une certaine solidarité. Donc là, vous voyez, il y a un mouvement d'externalisation à un moment, puisqu'il peut y avoir des groupes qui vont être pensés à l'extérieur du système principal, mais il y a aussi un mouvement de réinternalisation au sein de la classe. Et c'est peut-être des mouvements comme celui d'externalisation, internalisation sur des mêmes objets qui pourraient rentrer, dans une certaine mesure, dans une idée d'école inclusive. Le premier texte institutionnel qui reprend ou qui fait part, en tous les cas, aux enseignants aujourd'hui de cette idée d'un passé, d'un présent et d'un futur, c'est le texte de 2016, donc très récent, des SECPA, qui demande aujourd'hui aux élèves de 6e de SECPA d'être scolarisés à certains moments dans les mêmes classes que les collégiens. Et du coup, voilà ce que dit la circulaire. Pour les points du programme ou des disciplines qui font l'objet d'un enseignement dans une autre classe du collège, l'enseignant spécialisé de SECPA intervient en amont ou en aval des apprentissages sur l'acquisition et le réinvestissement des compétences. Ce qui signifie que l'intervention en classe ordinaire, elle est collective. Le travail de l'enseignant de SECPA, c'est d'anticiper avec les élèves orientés en SECPA de cette intervention en classe, quels sont les obstacles que vont rencontrer les élèves, et donc de compenser quelque part les difficultés des élèves et de retravailler si nécessaire la notion avec les élèves de SECPA s'il y a des éléments qui n'ont pas été compris. Et vous voyez bien que là, on voit l'idée que l'apprentissage, ça n'est pas un éternel présent. Or, les élèves qui vont présenter le plus de difficultés sont quelque part dans un éternel présent. Ils ne savent pas convoquer ce qu'ils savent déjà et ils ne voient pas d'avenir finalement, ou en tout cas de projet pour ce qu'ils sont en train ou ce qu'on est en train d'essayer de leur apprendre. Du coup, vous voyez que cette idée-là amène, et d'école inclusive, amène aussi vers un modèle où il y a un seul système, un système d'apprentissage central qui devient la classe de référence, où on peut être à deux dans la même classe, mais avec des boîtes à outils qui peuvent être différentes selon qui on est et quelle profession on exerce. Donc il peut y avoir un enseignant spécialisé à dominante pédagogique et un enseignant de classe. On peut avoir deux enseignants de classe, premier ou du second degré. On peut avoir un maître supplémentaire et un enseignant de classe. On peut avoir un auxiliaire de vie scolaire et un enseignant de classe, un éducateur, un infirmier psy, etc., etc., avec des enseignants de classe. Maintenant, je vous ai dit que les boîtes à outils ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'un enseignant, je l'appelle MC, lui, son attention, il est dirigé vers tous les élèves. L'école est une situation collective. Je ne dis pas par là qu'il n'est pas intéressé par, et, par quelques élèves qui vont attirer son attention, bien sûr que non. Mais l'enjeu de l'enseignant de la classe, c'est de mener une cohorte d'âge vers les enjeux d'apprentissage fixés par des programmes. Maintenant, un enseignant spécialisé, un infirmier psy, un AESH, etc., etc., eux vont avoir une attention beaucoup plus ciblée vers un ou quelques élèves, mais pour lesquels il y a eu une demande via la MDPH, par exemple. Et là, du coup, ou une demande d'aide spécifique de l'enseignant, et là, du coup, l'enjeu professionnel de ce professionnel devient de regarder plus spécifiquement ce que cet élève fait et c'est la manière dont il agit en classe. Et c'est cette complémentarité-là qui va pouvoir aider les deux professionnels à affiner leur attention et leurs actions auprès de cet élève spécifique. Et donc là, on est vraiment dans une internalisation de l'aide qui serait un modèle de l'école inclusive. Du coup, la problématique, en tout cas la question générale des travaux que je mène actuellement, c'est, elle peut se formuler de cette manière, en quoi la modification des situations habituelles de travail, induites par une dimension partenariale, fondée sur une coprésence ou un co-enseignement, eh bien, est-ce qu'elle reconfigure les pratiques liées à la prise en charge de la difficulté d'apprentissage ? Et je ne parlerai que de difficulté d'apprentissage, cette difficulté pouvant venir de faits et de faisceaux extrêmement divers avec un handicap, un trouble ou autre chose. Et donc, comment dans ces conditions se définit la partition apprentissage collectif et aide individuelle? Du coup, les hypothèses qui sont issues de divers travaux de recherche, la première hypothèse, c'est que si on fait travailler deux enseignants, ou un enseignant en AESH, ou un enseignant en éducateur, etc., au sein d'un même espace, eh bien, les faire travailler ensemble maintiendrait des temps et des objets d'apprentissage collectif, ce qui éviterait en fait aux élèves les plus fragiles d'être déconnectés des enjeux de savoir et qui engagerait ces élèves dans des expériences similaires avec le savoir. Et ça, on va y revenir. Et puis, l'hypothèse numéro 2, c'est que quand on augmente le taux d'encadrement auprès des élèves, eh bien, ça tendrait vers une différenciation plus effective des tâches. Ce que moi, j'appelle aussi l'accessibilité des tâches de travail. Comment est-ce qu'à deux, on va pouvoir être au plus près des besoins des élèves? Et donc, pour ce faire, eh bien, je vais vous mener dans deux situations de travail. La première, dans un dispositif, je vous l'ai dit, plus de maîtres que de classes, et la seconde, une situation d'accompagnement d'un élève en situation de handicap. Alors, c'est pour ceux qui sont enseignants, ça sera peut-être plus envisageable, enfin voilà, ce sera peut-être plus directement dans la situation, parce qu'on va au plus près de ce qui se fait. C'est-à-dire que dans cette classe de CE1, eh bien, ils vont travailler ce jour-là un texte pour apprendre à comprendre ce texte. Et ce texte, c'est un texte sur l'ours. Donc, en fait, l'enjeu de cet apprentissage, donc, il y a un maître de classe et un maître supplémentaire, et ils travaillent à deux avec l'hétérogénéité de cette classe de CE1 dans un réseau d'éducation prioritaire plus à Toulouse. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir avec les élèves comment est-ce qu'on va repérer des indices dans le texte pour pouvoir répondre à deux questions du texte. Et donc, en repérant ces indices et en répondant aux questions, l'enjeu est donc de mieux comprendre le texte. Alors, à certains moments, on va le voir, les territoires qu'occupent chacun des deux professionnels ne sont pas les mêmes. Parfois, c'est l'enseignant qui est meneur, parfois c'est l'enseignant qui est observateur, mais le maître supplémentaire peut être observateur, et parfois tous les deux peuvent accompagner les élèves. Donc on a des territoires qui vont être dissemblables. Mais il y a un obstacle. Les élèves n'arrivent pas, en grande partie, même quasiment tous, à répondre à l'une des questions. Et en parallèle, après cette séance, le chercheur va demander aux enseignants, au maître supplémentaire, au maître de la classe, qu'est-ce qui fait qu'ils agissent différemment, que leurs territoires sont différents? Est-ce qu'ils ont planifié ou en quoi ils ont planifié leur travail? Et qu'est-ce qui a produit, qu'est-ce qui fait que les élèves ont eu des difficultés pour répondre à la deuxième question? Alors, tout d'abord, les enseignants, ces deux enseignants vont mettre en lumière que le fait de travailler à deux au sein de la classe, ça leur permet des organisations qui sont différenciées. Par exemple, au début de la séance, où le texte est affiché au tableau, c'est le professeur supplémentaire qui donne la consigne, et vous voyez que l'enseignante, pendant ce temps-là, elle passe auprès des élèves et elle les remet bien dans la tâche. Et là, elle montre à un élève où il doit être attentif pour suivre la consigne. Donc ça, c'est le démarrage. Ensuite, les élèves, pour mieux comprendre le texte, il va falloir qu'ils le lisent. Il y a dans cette classe 4 élèves de CE1 qui sont encore très petits lecteurs, très petits déchiffreurs. Donc à ce moment-là, il y a la constitution d'un groupe d'élèves petits déchiffreurs avec le maître supplémentaire qui va étayer leur travail pendant que les autres élèves lisent de manière autonome le texte. Et puis ensuite, le maître de la classe et le maître supplémentaire ont organisé le travail de réponse aux questions, mais ils ont organisé ce travail par petits groupes hétérogènes, des binômes ou des trinômes, dans lesquels ils ont fait attention pour qu'il y ait un élève plus avancé que l'autre. Donc vous voyez que sur un plan général ou générique, travailler à deux leur a permis de mettre des organisations différenciées selon les besoins des élèves. Donc du coup, ils disent aussi que ça leur permet effectivement de mettre en place le fait de travailler à deux, de mettre en place des habitudes d'action et de les stabiliser. D'abord, ça permet de maintenir un temps des apprentissages commun à tous. Les élèves ont des performances très hétérogènes, mais ces performances très hétérogènes, malgré leurs compétences hétérogènes, ils travaillent la même situation, les mêmes objets d'apprentissage, mais il y a des organisations qui sont différenciées et donc qui permettent de ne pas laisser certains élèves sur le bord de la route. Voici ce que dit le maître supplémentaire. Alors, je ne faisais pas forcément il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'en suis convaincue, c'est que parfois, on cherche trop souvent à changer de dispositif, changer de séance à chaque fois, et en fait, vaut mieux ritualiser, reprendre des choses qu'ils ont l'habitude de faire, et non pas changer à chaque fois. C'était un tort que j'avais. Donc, dans ce que dit le maître supplémentaire, on voit bien que le fait de travailler à deux et de réfléchir à une séquence d'apprentissage leur a permis de stabiliser des manières de faire, ce qu'ils trouvent particulièrement efficace. Donc, ritualiser, construire des habitudes d'action, donc mettre en place des choses et fixer ce que l'on sait déjà, ce qui est déjà là, et de mettre en place des situations avec des notions nouvelles pour apprendre. Ils ont aussi, de cette manière-là, construit ensemble ce qu'on pourrait appeler une mémoire des apprentissages. Puisque tout se passe dans la même classe et qu'ils savent réciproquement ce que les élèves ont appris, le maître de la classe et le maître supplémentaire peuvent du coup réutiliser en situation des choses qui ont déjà été apprises lorsqu'ils étaient tous les deux. Par exemple, le texte de l'ours va être réutilisé en classe lorsqu'il y aura uniquement l'enseignante de la classe. Et donc, les liens entre les activités engagées avec le maître supplémentaire et celles du cours ordinaire de la classe, elles sont pensées conjointement, elles sont anticipées par les deux enseignants. Donc, Patrick Picard a écrit, parce qu'on a travaillé ensemble sur cette situation, il dit... Il est alors permis qu'un dispositif comme celui du plus de maîtres que de classes permet une inventivité, une réflexivité quant aux mises en œuvre didactiques et pédagogiques, dès lors qu'on a la préoccupation de maintenir l'élève le plus souvent possible au sein de sa classe. Donc avec ce travail à deux. Alors, d'une certaine manière, oui. D'une manière, vous voyez ce que je vous ai présenté, cette réflexion des organisations et des temps a permis aux enseignants de moduler voire de modifier leurs pratiques ordinaires. Maintenant, si on regarde sur un plan plus spécifique, puisque je vous ai dit qu'il y a eu un obstacle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à répondre à la deuxième question. Alors, donc l'ours brun. L'ours brun vit à la montagne dans les forêts de sapins. C'est un animal très agile. Il court, il saute, il nage, il grimpe aux arbres grâce à ses griffes. Il est grand, 2 mètres, et gros, 250 kg. Il a une épaisse fourrure brune. Il vit 25 ans. La nourriture, l'ours brun mange des fruits, de l'herbe, du miel, des saumons, des rongeurs, des champignons, des moutons qu'il tue d'un coup de patte. Point. Voilà ce qui est présenté de cette manière-là aux élèves. Les deux questions, que mange l'ours brun? Pourquoi les abeilles piquent-elles les ours? Alors, il y a déjà un peu de mouvement. Donc, il y a... Dans leur demande, les deux enseignants ont donc essayé de travailler sur une question qui relève de l'implicite d'un texte et une question qui relève, non, de l'explicite d'un texte et une question qui relèverait de l'implicite d'un texte. Pour la question numéro 1, que mange l'ours ? Ben, de toute façon, la réponse, elle se retrouve intégralement dans le texte, d'autant qu'elle est écrite sous le micro-titre « La nourriture ». Donc finalement, il suffit de surligner une phrase et il suffit de surligner la phrase qui vient juste après nourriture. Donc est-ce qu'il surligne uniquement ce qui vient après nourriture en pensant que c'est peut-être la bonne réponse ou est-ce qu'ils vont jusqu'à lire la phrase ? On ne peut pas savoir, les deux stratégies peuvent exister, mais on ne peut pas savoir laquelle ils ont utilisée. Mais c'est une question classique qui relève de l'explicite d'un texte. Maintenant, pourquoi les abeilles piquent-elles l'ours ? Piquent-elles les ours ? Alors là, en revanche, ça n'est pas inscrit dans le texte. Il va falloir puiser dans des connaissances encyclopédiques et il va falloir reconnaître le terme de miel comme un indice. Et ensuite, il va falloir se dire, si l'ours mange du miel et que le miel est produit par des abeilles, alors, quand l'ours va détruire la ruche, les abeilles vont le piquer. Vous voyez que le processus qui est mis en place, cognitif qui est mis en place, n'est pas du tout du même niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va regarder dans le micro, vraiment ce qui se passe en situation de travail ? Déjà, vous voyez que alors, là, on a le maître supplémentaire, c'est la dernière photo que je vous ai présentée, qui est avec ce binôme hétérogène, qui n'a pas réussi à répondre à la question. Et vous voyez qu'il y a un mot qui revient très très souvent chez l'enseignant, c'est le terme d'indice. C'est-à-dire, il dit, on va peut-être essayer de relire et de trouver un indice hein, pour réussir à répondre à la deuxième question. On fait une pause dans ce que vous venez de lire. N'y a-t-il pas un indice ? Il saute, il court, il nage, il grimpe, dit un des deux élèves. Non, ce n'est pas un indice. Dit E1, bon bah d'accord, discutez, pourquoi ? Parce que c'est pas, il nage, il saute, que ça te suffit ce qu'elle a dit, tu es d'accord avec elle, on continue la lecture, et E2 lit. Est-ce qu'il y a un indice qui explique pourquoi les abeilles piquent les ours ? Là, il n'y a pas de réponse. Et E2 dit, oui, parce qu'il a une épaisse fourrure. Et l'enseignant dit, ça n'explique donc pas. Donc, il chante quelque part la réponse de l'élève. Je crois que tout à l'heure, vous m'aviez parlé d'un indice. Ils ont parlé tout à l'heure du mot miel que l'un a eu du mal à lire. Et donc, E1 dit, ah, du miel. Quel est le rapport avec le miel ? Et E2 dit, en fait, l'ours vole le miel et c'est pour ça que les abeilles le piquent. Alors, il faut entourer cet indice, dit le maître supplémentaire. Donc, ils arrivent d'une certaine manière, avec l'aide de l'enseignant, à trouver la réponse, mais l'aide de l'enseignant a été tellement forte et insistante que quelque part il ne pouvait pas dire tellement autre chose. Mais vous voyez bien qu'il y a un écart entre la consigne et les attentes, il y a peut-être même un malentendu, puisque dans la consigne, le professeur a dit « ce sont les questions qui vont vous aider à comprendre le texte ». Mais alors, quel sens est-ce qu'il donne au terme de compréhension ? Est-ce qu'il s'agit de comprendre ce texte ? S'il s'agit de comprendre ce texte, le texte de l'ours que les élèves avaient à lire, la question des abeilles et qui piquent l'ours, elle est hors de propos, elle n'est pas pertinente, elle ne permet pas de comprendre le texte. Enfin, elle n'agit pas dans le texte. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'en comprendre un texte ? Est-ce qu'il s'agit de mettre en œuvre diverses stratégies qui pourrait être utilisé dans la lecture de tout texte. Alors, dans ce cas-là, le mot « miel » peut faire une interprétation en disant « Ah, bah, s'il mange du miel, eh ben, peut-être qu'il va se faire piquer par les abeilles, etc. » Mais vous voyez bien qu'on n'est pas dans la compréhension de ce texte-là, mais de tout texte. Donc là, on voit que, de manière, il y a un problème entre le générique et le spécifique. C'est-à-dire, de manière générale, pour comprendre un texte, on a besoin d'informations explicites et d'informations implicites. Pour comprendre ce texte-là, on n'a pas besoin de l'implicite. Donc, du coup, eh ben, il dit, quand le chercheur lui demande qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté qui fait que c'est vraiment compliqué d'arriver à 7 ou 8 ans à faire ça, il dit, ben, en fait, je ne sais plus quoi leur proposer. Je leur ai dit, après, si vous n'avez pas d'indice, on en reparlera dans le grand groupe et d'autres auront des indices. C'est-à-dire que comme ça n'a pas été réfléchi comme un obstacle a priori, par les enseignants, et que ça n'a pas été interrogé, que le texte n'a pas été interrogé et la nature des questions n'a pas été interrogée par les enseignants, eh bien, l'enseignant n'a pas de moyens, il ne peut pas sortir de son sac des éléments pour aider les élèves à répondre à la deuxième question. C'est comme si le texte était enseignant par lui-même. Et il ne peut pas agir sur un levier qui lui permettrait de décoincer quelque part la situation. Donc en fait, dans ce cas précis, eh bien, réinternaliser l'aide et de travailler à deux, certes, ça a permis une transformation du travail ordinaire, c'est ce qu'il dit, mais c'est ce que les deux enseignants disent, mais de manière générique, parce qu'ils ont co-construit des situations de travail. Ils ont pu prendre en considération certains éléments liés à l'hétérogénéité des élèves, mais le collectif a été un lieu de présentation de la tâche et des consignes à effectuer, mais ça n'a pas été le lieu des apprentissages, puisque le maître supplémentaire n'a pu fournir que le terme d'indice pour essayer d'aider les élèves et de les tirer vers la bonne réponse, mais sans avoir à pouvoir cheminer avec les élèves sur ce qui fait obstacle pour eux. Et Gérard Sansivi dit bien que, enfin, en tout cas, entre autres, mais avec les travaux que nous avons menés avec Corinne Marlot, en fait, ce n'est pas le co-enseignement qui est propice à l'entrée des élèves dans les apprentissages et de tous les élèves dans les apprentissages. C'est avant tout la situation d'enseignement-apprentissage. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'on a pu réfléchir aux obstacles potentiels qu'allaient rencontrer les élèves et de quelle manière on allait pouvoir résoudre en ligne avec les élèves ces obstacles d'apprentissage. Ce n'est pas systématiquement le fait d'être à deux. Et si je reprends les recommandations qui ont été faites par la conférence de consensus sur la différenciation pédagogique, eh bien, on revient à des caractéristiques qui ont été reprises par les chercheurs qui sont venus faire un point de leur recherche à l'international et sur le plan national sur la prise en compte de l'hétérogénéité des élèves dans les classes. Et un des consensus, c'est que ce ne sont pas les caractéristiques générales, psychologiques, motivationnelles ou intellectuelles des élèves qui sont à prendre en compte d'abord, mais des informations fines sur les savoirs des élèves relatifs à l'objet d'apprentissage précis qu'on souhaite leur faire apprendre. Ça, c'est un pavé dans la mare. Et on va y revenir sur la question, effectivement, du besoin particulier. Il n'est pas dit qu'on ne prend pas en compte les caractéristiques générales des élèves. Mais si la situation d'apprentissage n'est pas accessible, si la situation d'apprentissage n'est pas anticipée par le collectif d'enseignants ou autres qui ont réfléchi aux obstacles potentiels, eh bien, cette situation ne pourra pas être apprenante pour l'ensemble des élèves et laissera de côté les élèves les plus fragiles. Donc, dans ces recommandations, le préambule de ces recommandations sur la différenciation pédagogique et donc aider à faire progresser tous les élèves, ben, ne parle pas, en fait, de différenciation pédagogique d'emblée. Elle parle d'abord de la nécessité de situations d'apprentissage de qualité, avec, bien entendu, une bonne maîtrise des professionnels, des contenus à enseigner et des relations entre ces contenus, mais aussi une expertise des conditions d'appropriation des contenus par les élèves. Et donc, vous voyez bien là se dégager aussi l'empan de formation important des acteurs lorsqu'il s'agit de faire apprendre quelque chose à quelqu'un, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte. Donc, en fait, ce n'est pas le fait de travailler à deux qui va favoriser en soi une meilleure prise en compte de la difficulté scolaire. Ça signifie que travailler à deux, ça ne maintient pas forcément des temps ou des apprentissages collectifs. Ça peut renforcer aussi des tendances de l'enseignement en solo, c'est-à-dire plus de guidage, plus de surétayage, on les maintient, on les porte, on leur montre quasiment où est l'indice qu'il fallait trouver. Il y a une inflation aussi de la parole enseignant. Un enseignant, ça parle beaucoup. Quand il y a deux adultes dans la classe, ça peut parler encore plus, et on va y revenir. Et une focalisation sur l'effectuation de la tâche et pas sur l'enjeu de l'apprentissage. Mais en même temps, le co-enseignement, ça permet, à certaines conditions, de mieux observer les élèves, de les observer au travail, d'identifier certaines erreurs. Ça permet mieux de réinternaliser l'aide, de développer des pratiques qui sont liées à la différenciation pédagogique. Ça, ce sont des éléments importants. Maintenant, si on regarde un deuxième exemple de la scolarisation d'un élève handicapé en classe de CE1. Et là, on est dans une classe de CE2, pardon. On est dans un CE2 avec 19 élèves, avec un professeur qui est relativement novice, avec Johan qui a des troubles du spectre autistique, qui a d'abord été scolarisé à plein temps, puis à mi-temps depuis le mois de janvier, et qui bénéficie de l'accompagnement d'un AESH individuel sur son temps de scolarisation. Là aussi, je vais vous décrire une situation ordinaire d'apprentissage dans la classe de CE2 en mathématiques. Donc, le professeur demande d'abord aux élèves d'ouvrir leur manuel de maths à la bonne page, à la page 33. Il rappelle que la veille, ils ont joué à un jeu qu'il s'appelle le jeu du plus grand total. Et le professeur indique que le jeu du plus grand total auquel ils ont joué, ça a un lien très fort avec l'exercice qu'ils vont avoir à faire ce jour-là. Et il signale aux élèves qu'il va falloir être attentif puisqu'il va falloir compter les points. Et il laisse 10 minutes aux élèves pour réaliser dans un premier temps l'exercice tout seul. Que se passe-t-il pendant ce temps-là? L'auxiliaire de vie scolaire qui est près de Johan, eh bien, elle répète la consigne. Tu dois ouvrir, Johan, le livre à la page 33. Elle est obligée d'insister et de répéter la consigne parce que Johan, il ne veut pas ouvrir son livre à la page 33. Et finalement, l'AESH finit par ouvrir le livre à la page 33. Bon, truc ordinaire. Maintenant, vous voyez bien que ici, pendant que le professeur donne sa consigne, l'auxiliaire de vie scolaire maintient Johan dans la tâche d'ouvrir le livre à la bonne page. Johan a d'abord refusé, puis ensuite il a commencé à avoir des petits gestes et il a commencé à dire très fort n'importe quoi. Ça a déstabilisé l'AVS qui lui a dit maintenant, voilà, et il a fallu le remettre dans la situation tranquillement. Bref, l'AESH, à son insu, elle a fait écran au projet d'apprentissage collectif. C'est-à-dire qu'elle a empêché Johan, en le maintenant dans l'ouverture à la page 33, d'écouter la suite de la consigne. Donc, le professeur est obligé de venir présenter à Johan, représenter la consigne. Il lui redit exactement la même chose. Et on voit dans l'image de gauche que le professeur qui est accroupi près de Johan, eh bien, se rapproche de lui et Johan est pris en sandwich entre deux adultes, entre l'auxiliaire de vie scolaire et le professeur. Et du coup, l'auxiliaire de vie scolaire, sans écouter ce que du coup le professeur va dire à Johan, s'écarte de la situation. Donc, le professeur est obligé du coup d'introduire quasiment à l'identique la situation pour Johan. Il y a un rapprochement des territoires avec un S, ça serait mieux. Et Johan est donc pris en sandwich par deux adultes. Mais peut-être surtout, Pendant ce temps-là, les autres élèves travaillent. Et Johan va avoir un moindre temps pour travailler sur la situation. Donc, ces actions ont des effets. Johan est gêné par cette double sollicitation qu'il a, celle du professeur et de l'AESH. Il y a une double aide, c'est-à-dire que Johan n'a pas de temps autonome. 97% de la matinée, il sera à une distance intime d'un adulte. Alors que d'autres élèves éprouvent aussi des difficultés d'apprentissage, même plus sévères que Johan en mathématiques, et eux auront une beaucoup plus grande latitude dans leur travail. Et il y a un double territoire, mais ce double territoire, parce qu'il est trop important autour de Johan, ne permet pas à l'auxiliaire de vie scolaire de prendre des indications chez le professeur d'une manière spécifique d'aider Johan. Du coup, l'AESH, elle s'auto-organise. C'est-à-dire qu'elle voit que Johan, il n'y arrive pas bien et elle crée ses propres moyens de l'aide. En fait, elle s'inspire de ce qui a déjà été fait en classe et puis elle s'inspire aussi de la manière dont elle, en tant qu'AESH, s'y prendrait pour résoudre la situation. Et donc, l'AESH, face aux difficultés de Johan, elle réaménage la tâche comme elle peut, sans avoir de piste de l'enseignant en amont, puisqu'il n'y a pas d'interaction entre eux. Du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est que ces deux personnes, ces deux professionnels, s'entendent très bien, le professeur et l'AESH. Ils ont un désir très fort d'être en retrait. Mais en fait, la situation qu'ils donnent avec Johan, et c'est ce qui s'est passé sur cette matinée spécifique qui a été enregistrée, il n'y a pas de réelle possibilité de retrait. Il n'y a pas de réelle possibilité de retrait, et puis il y a des ambiguïtés, voire des paradoxes dans les discours. S'ils ont envie du retrait, le professeur dit quand même, le but affiché, en fait, c'est la socialisation de Johan. Pourtant, Johan partage exactement les mêmes tâches. Vous voyez qu'il n'est pas question d'apprentissage, mais de socialisation. Ils ont aussi le désir que Johan puisse interagir avec les autres élèves de la classe, avec ses pairs, mais il n'y a pas nécessité d'interagir avec les pairs, puisque, en tous les cas, ce matin-là, les séances amènent à des productions individuelles d'élèves. Il y a un désir d'aménagement de la tâche, mais l'auxiliaire de vie scolaire ne sait pas ce qui va se passer avant de rentrer dans la classe. Donc elle ne peut pas anticiper et demander des informations pour savoir comment aider l'élève au professeur de la classe. Du coup, il y a une accessibilité de la situation qui est de la responsabilité de l'AESH, mais l'AESH n'est pas le professeur, elle n'est pas formée pour aménager des situations. Et pour le professeur, ce qui va être important pour une AESH, c'est de driver par derrière, c'est-à-dire de surétayer, voire de surétayer l'élève. Parce qu'il a besoin de la présence de l'auxiliaire de vie scolaire. Mais pourquoi il a besoin de la présence de l'auxiliaire de vie scolaire? Parce qu'il craint de perdre la classe à cause des dérapages de Johan. Et pourtant, Johan dérape parce que l'auxiliaire de vie scolaire est là. Donc vous voyez que cette situation, elle est mise en place pour solidifier et permettre de progresser l'élève, faire progresser l'élève, mais la situation en elle-même concourt à un certain nombre de paradoxes qui sont du fait de l'organisation, mais aussi du fait des intentions de chacun des acteurs. Donc si on regarde sur les conséquences d'un partenariat non formalisé, quelque chose qui repose sur le bon vouloir réciproque, ce bon vouloir réciproque, ça peut se révéler fragile et peu évolutif. La question centrale qui taraude le professeur et l'auxiliaire de vie scolaire, c'est le comportement de Johan et non pas ses apprentissages. Il faut en fait que Johan ne déborde pas du cadre de la classe et du coup, Johan rejette l'auxiliaire de vie scolaire. Et donc là, c'est une situation là que je vous montre qui est très spécifique, mais que dans la collection d'études de cas que je suis amenée à faire, est une situation qui revient régulièrement. Du coup, on voit bien qu'il y a un certain nombre de mots, que ce soit besoin éducatif particulier, que ce soit accessibilité, que ce soit compensation, ces mots, ces concepts amènent à des dilemmes et voire à des résistances. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui existe entre le besoin éducatif et l'orientation vers une organisation pédagogique particulière qui est censée rencontrer ces besoins. C'est-à-dire que très souvent, les professionnels, quand ils vont inclure un élève spécifique, ils vont penser en termes d'organisation, dans le groupe, des petits groupes, des grands groupes, homogènes, hétérogènes, etc. Et non pas aux situations spécifiques d'apprentissage. Donc il y a une confusion qui advient entre un besoin en général et le besoin en particulier. Et du coup, eh bien, il me semble en tous les cas dans les études et les études de cas que je mène que la notion de besoin éducatif particulier n'a pas permis de tourner le dos à des catégorisations d'élèves. Que le besoin éducatif particulier devient même une super catégorie qui en fait recouvre des besoins mais d'une très large variété et qui amène plutôt à la consommation de ressources additionnelles. Et c'est aussi ce qui fait que, par exemple, il y a une demande de plus en plus forte d'un auxiliaire de vie scolaire pour chacun. Maintenant, du coup, si on transformait le besoin particulier en obstacle particulier, c'est-à-dire, Ebersole et Detroux, ils disent de voir le besoin éducatif non comme intrinsèque à l'élève, avec ses difficultés, mais mis en partage par chaque acteur. Soit des parents, des professionnels, les élèves eux-mêmes. Du coup, la question centrale, c'est quels sont les obstacles que l'élève rencontre en situation ? Et du coup, c'est plus la difficulté, c'est plus le trouble, c'est plus la pathologie qui sont premières, mais ce sont les situations dans lesquelles sont les individus, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. Et l'attention, elle est renouvelée du coup par les obstacles vers un équilibre entre individuel et collectif. Parce que demandent en fait la plupart des parents, mais je ne leur jette absolument pas la pierre, mais c'est que leur enfant soit accompagné par un adulte. Mais vous voyez bien que cette idée-là, elle est certes généreuse et elle peut apporter beaucoup, mais elle peut être aussi un écran entre l'enfant et la situation collective. Du coup, si on pense à l'obstacle en situation et d'accompagner cet obstacle en situation, ça pourrait se résoudre par de l'individuel, certes, mais aussi du collectif. Bref, dans une école inclusive, ce serait une inversion à reconstruire, c'est-à-dire de ne pas dire que la classe spécialisée, c'est le système central et la classe ordinaire, le système auxiliaire, mais bien de dire que la classe ordinaire, avec le dispositif imbriqué spécialisé, eh bien, la classe devient le système central, c'est-à-dire le dispositif, le système auxiliaire, avec l'idée que, eh bien, une anticipation, une coélaboration est absolument nécessaire lorsque le dispositif est imbriqué. Et c'est ça la contrainte en fait de travailler à plusieurs. Si on reste sur des systèmes à deux voies, il n'y a pas de contrainte à travailler à plusieurs et les systèmes peuvent vivre de manière juxtaposée. Donc du coup, quelles attentions, et c'est la dernière diapositive, on pourrait requalifier lorsqu'il y a un travail collaboratif. Donc de dépasser la juxtaposition que je vous ai montrée de systèmes pour une imbrication des systèmes. Eh bien, c'est aussi de réfléchir à toujours des systèmes en tension. Parce que de toute façon, et ça c'est ce que dit Pio, le travail partagé c'est un travail sous tension, aux limites souvent mouvantes et imprécises. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre les gens ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Mais de réfléchir ensemble aux tensions qu'il y a lorsque l'on travaille ensemble. Un des couples, c'est symétrie et dissymétrie. Faire ensemble et partager, et ce mot est extrêmement intéressant parce que partager, ça peut vouloir dire une chose et son contraire. On partage un moment, un déjeuner, on est ensemble dans un moment convivial. On partage un gâteau, on le découpe. Donc ça signifie que parfois, eh bien, on va avoir de la symétrie, on va faire la même chose, mais parfois on ne va pas faire la même chose. et c'est normal et c'est même important. Et que, eh bien, c'est quand est-ce qu'on est en symétrie, quand est-ce qu'il y a une dissymétrie des positionnements. Il faut aussi réfléchir à la continuité et la discontinuité. C'est-à-dire que l'enseignant spécialisé, l'éducateur spécialisé, l'orthophoniste vont travailler dans la discontinuité lorsque l'enfant, l'adolescent est dans une classe de référence. Ils n'y seront pas tout le temps. Donc, qu'est-ce que l'on fait seul? Qu'est-ce que l'on fait à plusieurs? Comment je gère la discontinuité si je viens une fois par semaine? Ça signifie qu'il se sera passé beaucoup de choses dans l'entre-deux. Et comment est-ce que je peux le reconvoquer? Il va falloir aussi parler de normes et des valeurs. Même entre deux enseignants, les normes et les valeurs ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas rien de plus différent que deux enseignants, mais deux enseignants sont très différents. Et vous savez bien, vous préférez que votre enfant soit dans la classe de Madame Machin que de Madame Truc. Ou l'enseignant de la classe de CP, il préfère travailler avec Madame Truc qu'avec Madame Bidule, avec elle, il ne veut pas travailler. D'accord ? Donc, il va bien falloir mettre en place aussi des espaces pour parler des normes et des valeurs qu'on véhicule chacun de par notre histoire. Et les histoires liées à l'école, elles sont extrêmement vives, même 40 ans après. Parce qu'il va falloir, lorsque l'on travaille à plusieurs, négocier l'intra-individuel et l'inter-individuel. Et que quelquefois, on a l'estomac qui se noue parce qu'on voit l'autre agir de telle manière en se disant « Mais pourquoi il fait ça ? Mais jamais je ferai ça comme ça !» Et du coup, si on l'attaque de cette manière-là en lui disant « Moi, je ne ferai pas ça comme ça hein. !» Donc là, il y a rupture de communication. Donc il va falloir négocier, en fait, et se dire aussi « Eh bien, ce que l'autre fait, je ne peux que l'accueillir et en discuter par la suite. » Donc il y a cette notion de partage et de division. Et donc, eh bien, il y a des périmètres pour chacun, mais l'idée de ne pas rester dans un périmètre, mais bien d'instaurer un réseau pour que ces périmètres soient en synergie. Donc, on a bien cette idée hein, des limites qui sont souvent mouvantes et imprécises, mais ça, ce sont des éléments qu'on peut avoir en arrière-fond lorsqu'on fait travailler des professionnels issus du même monde professionnel ou issus de mondes différents, de manière à ce que l'on puisse faire émerger chez chacun des couples d'attention dans le travail. Et je vous remercie. Merci.